Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Chers auditeurs de la web Radio Rage, voix des jeunes, bonjour. Heureux de vous accueillir une autre fois dans ce nouveau numéro de l'émission Café des Libertés, qui est une émission chaque 15 jours. Donc à chaque fois on aborde une question d'actualité. Cette fois-ci, on a choisi d'aborder une question importante, qui est la place et le rôle des étudiants dans la vie sociale, politique en Algérie. Cela, c'est à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'étudiant, qui coïncide avec le 19 mai de chaque année. Donc, un certain 19 mai 56, les étudiants algériens ont quitté les bancs de l'université pour rejoindre les rangs de l'ALN et du FLN historiques. Et donc, ils étaient un acteur politique à l'époque. Ils ont joué un rôle important. Donc, aujourd'hui, après l'indépendance, on souhaite bien ouvrir un débat sur la place qu'occupent aujourd'hui les étudiants et qu'en est-il du mouvement des étudiants en Algérie. Est-ce qu'ils jouent un rôle comme étant acteurs politiques? Est-ce que l'université, c'est un espace de débat, d'échange, de discussion sur des questions qui concernent l'Algérie sur le plan politique, économique, social et ainsi de suite. Donc, c'est pour aborder ces questions et d'autres questions. Nous avons aujourd'hui invité avec nous Monsieur Adel Abderzak, qui est un enseignant à l'université de Khanchla et aussi ex-porte-parole du CNES. Bonjour Adel. Bonjour. Il y a aussi avec nous Monsieur Nabil Nedjadi. Il est étudiant à l'université de Bouira, en même temps l'un des meneurs du mouvement des étudiants qui a connu récemment l'université de Bouira. Bonjour et merci d'être venu. Il y a aussi Monsieur Karim Boutata, étudiant à l'université de Béjaïa. Il est encore étudiant. Il a été acteur du mouvement des étudiants de 2011. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Et aussi, enfin, il y a Monsieur Kadi Hassan, qui est journaliste. Est aussi responsable du journal Maghreb émergent et aussi il était ancien étudiant qui a été arrêté après les événements du 19 mai 1981.
Bonjour. Bonjour.
Donc merci une autre fois d'avoir accepté l'invitation du Rage pour aborder cette question quand même d'actualité. Donc la question qui vient à l'esprit directement, qu'en est-il aujourd'hui 53 ans après l'indépendance, qu'en est-il du mouvement des étudiants en Algérie et après avoir joué un rôle important durant la guerre de libération, même juste après comme étant acteur politique, qu'en est-il réellement aujourd'hui 53 ans après l'indépendance? Donc la question est posée, donc on peut commencer par Adel Abderzak.
Oui, sur la situation du mouvement étudiant aujourd'hui, c'est d'abord les étudiants qui peuvent nous éclairer sur effectivement la réalité de la condition étudiante, la réalité de leur expression dans les espaces universitaires. Mais disons qu'historiquement, on peut considérer que effectivement, entre le moment où le mouvement étudiant s'est construit autour de l'idée nationale avec le mouvement national, donc qui était impliqué politiquement dans le combat pour l'indépendance, il y a eu des étapes qui ont été franchies. Il y a eu des hauts et des bas, comme on peut dire. Et il y a eu après l'indépendance, la volonté du pouvoir politique, surtout après le coup d'État de 65, la volonté de recadrer le mouvement étudiant selon les objectifs et du pouvoir politique. Donc il y avait un problème d'autonomisation. Il y avait un problème d'autonomisation du mouvement étudiant. Et l'UNEA à l'époque, L'UNEA à l'époque qui était, qui existait, qui a participé à cette lutte politique, a été dissoute, je rappelle, en 71 par le régime Boumdine, justement parce qu'elle s'inscrivait pas, elle s'inscrivait pas dans la démarche du pouvoir politique à l'époque, qui était celui de cadrer, d'embrigader et d'enfermer, j'allais dire entre guillemets, le mouvement social. Bien. Après, ça n'a pas empêché, et c'est ça qui est intéressant dans la rétrospective historique si on en fait une, c'est, ça n'a pas empêché le mouvement étudiant à chaque fois de rebondir et d'essayer de se reconstruire de façon critique dans ses rapports avec le pouvoir politique. Voilà. Mmh. Il y a eu l'expérience des années 70, ensuite c'est le mouvement volontariat, mais il y a eu les années 80, il y a eu les événements de 86-87 à Constantine qui ont montré des velléités fortes de la, dans la construction d'un mouvement autonome, et après on connaît ce qui s'est passé avec le mouvement 80-81, etc., où les étudiants ont été les principaux acteurs.
Je sais.
De la démocratisation de l'espace politique en Algérie, pas seulement universitaire.
Justement, donc après les années 70, il y a les années 80, si on parle du mouvement berbère, donc l'université était à l'avant-garde des luttes durant le mouvement 80, même qui est venu après, il y a après le mouvement de 81. Donc, parlez-nous un peu de la mobilisation et l'engagement des étudiants dans cette période-là. On a senti qu'il y a un éveil citoyen durant cette période, monsieur.
En fait, ce que c'est intéressant de se pencher sur une histoire politique, c'est qu'on n'apprécie pas de la même manière aux différents moments où on essaie de la traiter. Moi, pendant longtemps, j'étais un peu dans cette disposition de considérer que les étudiants avaient obligatoirement un rôle d'avant-garde à jouer sur les questions démocratiques à partir de l'espace universitaire. En fait, c'est une vérité qui fonctionne dans un contexte historique. Elle fonctionne peut-être pas tout le temps de la même manière. C'est-à-dire que le mouvement étudiant a joué un rôle important quand toutes les autres portes étaient fermées. Au début de le mouvement de 80, c'est l'après Boumdine. D'ailleurs, quelque part, aujourd'hui, c'est important de s'intéresser au mouvement étudiant parce que l'après Bouteflika va être probablement animé d'une façon différente aussi, peut-être, c'est les étudiants qui vont nous le dire, par l'émergence d'un nouveau mouvement étudiant autour de nouvelles problématiques. La question, quand je dis de nouvelles problématiques, je pense à des problématiques qui vont au-delà de l'université. En 80, c'est le couvert qui s'est enlevé et les étudiants ont joué un rôle d'avant-garde parce que le syndicat était caporalisé, il n'y avait pas d'association, il n'y avait pas de multipartisme politique, il n'y avait pas de presse libre, il n'y avait aucun espace d'expression. Et donc, les étudiants ont pris sur eux de jouer ce rôle-là et on était à un moment charnière où la fac était c'était plus les quelques petites élites qui ont fait 56 et qui étaient organisées directement sur une base politique. Si on évoque les nombres, c'est quelques dizaines, ça se compte en quelques centaines, c'est pas nombreux. Et les effectifs d'aujourd'hui, la démographie universitaire aujourd'hui, qui peut-être est un problème, là aussi vous allez nous le dire, nos amis journalistes vont le dire, un problème quant à la qualité des revendications qu'on peut poser et peut-être quand on est trop nombreux, il y a une force d'inertie qui finalement se retourne contre nous. C'est un moment particulier. Donc voilà, moi j'ai commencé à changer de point de vue sur 80. Effectivement, les étudiants jouaient un rôle important, très important, dans la démocratisation, on peut tout à fait être d'accord. Mais ce rôle a été permis par le contexte de l'époque. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, la bataille autour de Khabar paraît aujourd'hui être comme étant la grande bataille démocratique en Algérie. C'est quand même un peu curieux. C'est une transaction entre, une aventure intellectuelle, oui, de journalistes, et un oligarque. Tout à l'heure, j'en parlais comme ça sur Radio M. Là, ça peut pas être la grande mobilisation démocratique, mais il y a, dans la presse, il y a des enjeux de ce type-là, il y a des télés qui sont supposés être ouvertes, il y a une diversité, il y a des syndicats qui sont supposés être pluriels, etc. Donc, le poids on n'attend plus la même chose des étudiants. On n'attend plus la même chose du mouvement étudiant, on n'attend plus qu'il joue le même rôle. Cependant, dans un contexte de fermeture complète, je vois que les autorisations pour organiser des activités sont bloquées, etc. Il y a encore à faire, et le mouvement étudiant, c'est une question, peut encore se retrouver à jouer un rôle d'avant-garde, compte tenu du recul des possibilités autres que celles qu'offre le mouvement étudiant.
Justement, donc si on parle de la période des années 70-80, donc c'était le parti unique, donc c'est dans la clandestinité, mais là donc il y a officiellement il y a ça veut dire la reconnaissance de d'activer, de s'organiser à l'intérieur de l'université, mais on constate que en ce moment-là, qu'il n'y a pas une mobilisation à l'intérieur des universités algériennes. Donc, à mes côtés, donc il y a Karim Boutata, étudiant. Donc, comment expliquez-vous que, ça veut dire aujourd'hui, le rôle de l'université qu'a joué durant les années 80 et les années 70, ça veut dire il y a un recul en quelque sorte. Donc, qu'est-ce qui l'empêche à ce que les étudiants aujourd'hui se mobilisent et jouent un rôle politique?
Oui, bien sûr. Je peux dire que aujourd'hui, c'est la troisième génération. Il y a la génération de 56 des étudiants à l'époque coloniale, ça veut dire qu'ils ont lâché les cartables et ils ont rejoint le maquis. Mais il y a la deuxième génération encore, c'est celle des étudiants post-indépendance. C'est les étudiants qui ont déclenché le premier mouvement politique en Algérie les années 80. Et il y a la génération d'aujourd'hui. Et chaque génération a sa mission et chaque époque a ses exigences. Ça veut dire le contexte, c'est pas le même de celle de l'Algérie coloniale et l'Algérie de parti unique. Aujourd'hui, il y a vraiment un changement dans le contexte. Ça veut dire, les étudiants, quand même, il y a un recul malgré qu'il y a des moyens, malgré qu'il y a le multipartisme après le 89, mais en même temps, il y a un recul dans les rangs des étudiants. Et ça revient à plusieurs facteurs. Il y a le système éducatif encore. Qu'il a des réformes qu'il a fait le pouvoir algérien, ça veut dire il vient de donner ses fruits négatifs et encore il y a la répression où le pouvoir a changé les méthodes de répression à l'université. À part des étudiants des années 80 où il y avait le niveau à l'intérieur de l'université, ça veut dire il y a le parti unique, les étudiants ils sont tenus. Mais aujourd'hui il y a plusieurs facteurs de pouvoir et de jeu sur la régionalisation, le régionalisme, etc. C'est pour ça qu'il a diversifié le combat à l'université. Mais quand même, en 2011, les étudiants algériens, suite à l'accumulation des problèmes qui ont fait entrer l'université dans un marasme total, les étudiants se sont confrontés à des problèmes qui freinent le déroulement normal et naturel de leurs études. Et ils ont brisé quand même le mur de silence. Moi, je les qualifie comme étant un troisième mouvement des étudiants en Algérie, à part celui de 56 et celui de 80. 2011, quand même, les étudiants, ils se sont mobilisés, ils se sont démontrés qu'il y a une prise de conscience, que les Algériens sont unis. On a même brisé le mur de la cour, on a même réussi une marche à Alger, à part l'interdiction des marches depuis 2001.
Justement, ça veut dire, sur cette question, il y a l'expérience de 2011, mais il y a aussi l'expérience récente ici à l'université de Bouira. Donc, après avoir interdit toute activité politique, entre guillemets, donc on va revenir, c'est quoi faire de la politique. Et il y a une mobilisation des étudiants extraordinaires à l'université de Bouira, où ils ont arraché des acquis. Parmi ces acquis, donc déjà avoir des structures et des comités autonomes et arracher des espaces de débat à l'intérieur de l'université. Donc pour ça, donc il y a avec nous Nabil. Parlez-nous un peu de cette expérience.
Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et au nom des étudiants de l'université de Bouira et le collectif des étudiants libres, je tiens à remercier la radio RAJ Voix de Jeunes pour cette invitation, pour participer à ce riche débat à l'occasion du 19 mai, la journée nationale d'étudiants. Notre mouvement, dernièrement à l'université de Bouira, c'est à cause on a organisé une activité à l'occasion de printemps berbère et de printemps noir pour célébrer ces deux occasions. Et dans le programme, on a organisé des conférences. On a programmé des conférences, débats, trois conférences. La première conférence, c'était Monsieur Saïd Khalil. Une conférence à caractère politique, c'est interdit la politique au sein de l'université. Après, il y a une pression sur les responsables de l'université, soit c'est les étudiants, soit après la conférence de M. Khalil Fadan, la deuxième conférence, c'est le 19 avril. C'est un étudiant et un enseignant de l'université de Tizi Ouzou. C'est les invités de Narov. Malheureusement, nous sommes venus avec force. Dans la conférence en scène, apparaît au sein des agents de sécurité. Malheureusement, ils ont empêché cette conférence. Ramène quelques pratiques qui n'est infusable à l'université. Ça a son arrêt, c'est un micro, ça a son arrêt, c'est les fils, les baffes, etc. Après, le coordinateur de la sécurité, il a agressé un étudiant en plein public, au niveau de l'enceinte universitaire. Après, c'est cet incident. C'est la goutte qui a fait déborder le vase.
Justement, donc après cette goutte qui a fait déborder le vase, il y a un PV qui a été signé avec le rectorat, en garantissant déjà la structuration déjà des comités autonomes, plus les activités au sein de l'université. Moi, je vais revenir, ça veut dire à chaque fois qu'on parle de la politique au sein de l'université, donc en interdisant, donc on a tendance qu'on a peur de faire de la politique au sein de l'université. Alors que la politique de l'université doit être un espace de débat et de réflexion pour aborder des questions d'actualité. Où est l'enjeu ici en interdisant de faire la politique, parce qu'on veut faire de l'université, on gère des flux et on fabrique des diplômes, et des diplômes qui ne sont pas, en liaison, en relation avec la société, avec les problèmes que vit la société. Est-ce que cela ne peut pas engendrer d'autres problèmes, même amplifier la crise au sein du pays en fermant encore des espaces de débat?
Oui, enfin, tout le monde se rappelle que le printemps 80 a démarré avec une interdiction de conférence de Mouloud Mamani. Donc, enfin, de ce point de vue-là, le système a la mémoire courte. Et là, après, c'est pas partout où il y a ce type de revendication. C'est pas à travers tous les campus en Algérie qu'il y a ce type de revendication. Je sais pas, Constantine Franchela, si on invite des personnalités politique politique ou qui vont parler de politique, pas nécessairement des personnalités politiques, mais des intellectuels. Ce n'est pas une tradition installée. Donc là, on va quand même porter le grief et la critique au mouvement étudiant dans sa dimension nationale, pour ne pas être mobilisé autour de ces questions-là, attentif, curieux, en ébullition, consommant de la culture, consommant des points de vue, consommant du débat clivant, etc., etc. Donc c'est inintelligent effectivement de refuser, parce que ça a provoqué cet incident à Bouira, qui aurait pu être le point de départ de quelque chose de plus ample, hein, encore une fois, sans le souhaiter vraiment, parce que bon, on va pas souhaiter qu'il y ait encore un massiniste à Grimache qui ait des incidents graves pour que les gens se mobilisent et qu'on se retrouve dans une impasse. C'est pas ça que on souhaite à l'avancée de la société algérienne. Mais aujourd'hui, moi, quand je regarde un petit peu, dans l'actualité d'aujourd'hui, Monsieur Khalil prévoit d'abandonner les Aouiyats et d'aller vers les universités. Il est de plus en plus question qu'il fasse des conférences dans des universités. Voilà un thème qui peut mesurer en 2016 le niveau de maturité, de mobilisation des étudiants en Algérie. S'il y a des étudiants qui se mobilisent dans leur campus pour dire, bon, nous, on n'est pas venu vous chercher, on est dans une sorte d'accord avec le régime, voilà, nous, on s'occupe de nos études, d'avoir nos diplômes, etc., mais on n'est pas venu vous titiller sur le terrain de la politique. Mais si vous venez nous faire l'offense de nous ramener une personnalité sulfureuse comme M. Khalil, dans notre campus, on se mobilise, on est contre. Ça s'est fait pour des Zaouias. Voilà un point de départ qui peut permettre d'évaluer, qui peut permettre de franchir un petit peu le seuil au-delà duquel les journalistes, les étudiants vont cesser d'être que des consommateurs, entre guillemets, du savoir qu'on leur donne en vue d'avoir des diplômes.
Okay.
Pour devenir des citoyens.
Moi, je pense que, d'abord, sur la première réflexion, il faut partir du principe que dans les années 70-80, seul l'espace universitaire pouvait s'exprimer, avait ce potentiel de contestation et était effectivement au devant ou à l'avant-garde de l'expression démocratique. Les acteurs se sont démultipliés après octobre 88. On a des acteurs sociaux, on a des journalistes, on a le mouvement femmes. Enfin, la société, c'est quand même, il y a des choses positives à rappeler. Les choses ont avancé. Ce n'est plus les étudiants qui sont le centre d'intérêt unique dans la contestation politique, critique par rapport au pouvoir politique ou par rapport aux choses de la société. Ça c'est un truc positif qui permet que le pouvoir politique ne centre plus sur l'université. Pourquoi maintenant, à mon avis, il y a une volonté délibérée de dépolitiser au maximum l'espace universitaire? D'abord, l'université est devenue très démographique. Et il y a un mouvement de foule qui, s'il est poussé dans la tentation de réagir sur des décisions administratives provocatrices, etc., c'est vrai que ça peut imploser. Donc, tous les moyens sont réunis, et moi, ce qui m'inquiète, c'est les nouveaux moyens qui sont mis. Tous les moyens sont réunis pour un peu cadrer, j'allais dire castrer toute activité ou expression différente que l'expression liée au cursus pédagogique. L'idée de faire que l'université n'est qu'une fabrique de diplômes n'est pas innocente politiquement. C'est pas seulement une question pédagogique ou scientifique. Un. Deux, il y a aujourd'hui les étudiants, parce que Chakib Khalil est venu déjà aux universités faire la promotion de sa loi sur les hydrocarbures. Je rappelle, avec comme agent promoteur, c'était l'ancien ministre de la Communication, Boujma Aïchour. Et il est venu à l'université de Constantine, comme il a été à l'université d'Alger, à l'université de Rouen, pour promouvoir une loi sur les hydrocarbures qui était en projet et qui a été remise en cause après, etc. Il peut revenir. À mon avis, ça risque, j'ai le sentiment que ça peut être un élément de provocation dans le champ universitaire, parce que l'actualité est centrée là-dessus, etc. Mais ça pourrait être un lieu d'échange, au moins pour les universitaires et en particulier pour les enseignants, pour ceux qui réfléchissent, etc. Mais par rapport aux étudiants, et je m'arrête, par rapport aux étudiants, il est important que les étudiants sortent de cette logique de fabrique de diplômes, qu'au niveau de la compréhension de ce qui se passe au niveau de l'université, il faut savoir que le campus est desséché. En dehors de l'amphi et de la salle de TD, il n'y a pas de vie de campus universitaire. Et pourtant, aujourd'hui, les cités universitaires sont souvent dans les grandes universités, sont souvent dans les campus. À l'université 3 à Constantine, nouvelle depuis quelques années, il y a presque 30 000 étudiants qui circulent dans la journée. Il n'y a aucun club, aucune activité, et les conférences des enseignants-chercheurs en général sont fermées. Elles ne sont pas vraiment ouvertes aux étudiants, etc. Donc il y a une dynamique d'arracher des espaces d'expression culturelle, artistique, activité ludique, mais aussi sur des questions qui concernent le pays, la société, etc. C'est quelque chose qui doit être porté aujourd'hui par les étudiants, parce qu'ils doivent maintenant se mettre un peu sur le terrain de l'éveil citoyen, entre guillemets. Voilà.
Moi, j'étais un peu interpellé par l'intervention de notre ami Dobjaya qui dit que 2011, c'est le troisième grand moment du mouvement étudiant. 2011, c'est la lutte contre c'est la mobilisation contre le LMD.
Oui, il y a un décret.
Non, ils ont élaboré une forme de revendication à plusieurs, la démocratisation de l'université, l'amélioration des conditions des sociopédagogiques, l'augmentation de bourses, l'encadrement, les moyens, etc. Donc, il y a toute une plateforme de revendication à en 2011, il y a même le système LMD, bien sûr, ça veut dire en 2011, c'est clair, le système LMD, ils n'ont pas fait des moyens et des conditions de réussite pour ce système-là.
C'est vraiment le problème de la passerelle.
Oui, c'est le problème de la passerelle, l'équivalence master, magister, tout ça, etc. Voilà.
Mais justement, ça veut dire sur cette question, on peut, il y a un point qu'on veut bien aborder sur le mouvement 2011. Donc, il y a une plateforme de revendication. Donc, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est le degré. Ça veut dire l'équivalence entre les classes, le diplôme ancien et le diplôme. Mais dans la plateforme de revendication, il n'y a pas que cette revendication. Il y a d'autres revendications d'ordre politique. Parmi, donc, il y a la démocratisation de l'université. Donc, c'est une revendication politique importante, mais ce que nous avons constaté, que juste après l'annulation de ce décret, le mouvement s'est essoufflé. Donc, où, ça veut dire, je pose la question aussi, où est le problème ici? Donc, est-ce que les étudiants, ils sont dans cette démarche, ça veut dire d'intérêt personnel individuel, ça veut dire, il n'y a pas cet éveil collectif, donc, de penser, le fait, notre revendication, c'est l'équivalence, le fait que cette revendication est satisfaite, c'est bon. Donc, il y a tout, donc, où est le problème, la jonction entre les revendications, d'intérêt, ça veut dire, social, pédagogique de l'étudiant, et les revendications d'ordre politique, et national, dans l'intérêt de l'université, dans l'intérêt du pays, de manière générale.
Donc, moi, je pense que, il y a une pure de politique à l'université actuellement. Ça veut dire le pouvoir, il a mené une propagande à l'intérieur de l'université. À chaque fois qu'il y aura un mouvement, par exemple, et l'administration, il manipule que ce mouvement-là, il est manipulé par tel parti ou par tel parti. Et là, il commence des divisions dans les rangs des étudiants. Ça veut dire qu'il y a une manipulation politique et les étudiants, et ils sont devenus allergiques à la politique.
L'utilisation des ONG, des organisations
satellites. Voilà, d'utiliser, de créer des faux mouvements en parallèle. Par exemple, il y a un mouvement autonome qui revendique, qui élabore une plateforme de revendication. L'administration, il vient avec un autre mouvement en parallèle, et il est favorisé, ils vont les mettre à tous les moyens pour casser ce mouvement-là. Ça veut dire qu'il y a le jeu de l'État, de pouvoir, pour casser la politique à l'université.
Nabil, vous avez un mot à ajouter?
Juste un petit témoignage, parce que moi aussi j'étais étudiant à l'université du Tizi Ouzou. En 2011, j'étais en troisième année, et j'étais syndicaliste, un petit syndicaliste, au niveau du comité de département langue et culture à Mazir. C'est vrai, il a, le décret ministériel, l'équivalence, etc. À titre personnel, l'année 2011, le mouvement 2011, c'est un grand mouvement. Des mouvements des infiltrés ou des opportunistes entre parenthèses. L'espoir toujours est là. Les syndicalistes qui sont de l'époque ni Belek, des mauvaises images. Le fonctionnement des comités, etc. Les étudiants, une assemblée générale, quelques membres de comité, les étudiants, en première année, ils chauffent avec des gens.
Ok, donc bon, c'est important ces témoignages-là pour l'avenir aussi. Donc là, on va faire une pause, on revient après le générique.
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Rebonjour, donc on revient avec la deuxième partie de notre émission, toujours pour aborder la question de l'étudiant et son rôle dans la société. Il y a une question, un point qui revient à chaque fois, c'est la question de la démocratisation de l'université. Donc à chaque fois les étudiants avancent cette revendication et jusqu'à présent on n'arrive pas à mettre en place les mécanismes de son application. Donc j'aimerais bien avoir une idée, c'est quoi la démocratisation de l'université. Qu'est-ce que ça veut dire pour les étudiants et pour même les enseignants? Parce que quand on parle d'université, il y a aussi les enseignants et il y a les étudiants. Donc, Nabil.
La démocratisation de l'université, c'est un point essentiel. Il se revendique à chaque fois de l'université. Nous connaissons des mouvements Gangaro à l'université de Bouira. Le problème c'est la sécurité au sein de l'université et les libertés démocratiques, soit les libertés d'expression, libertés d'organisation. En plus, la création des comités autonomes, soit au niveau des départements ou au niveau des CT. Après, à la fin, vers la fin, l'Assemblée générale avec le recteur et son staff administratif à l'auditorium de l'université, on a abordé tout ça. Après, le recteur il a accepté parce que on a demandé cinq points dans notre plateforme de revendication. Après, on a racheté plus de 5 points. C'est environ 9 points. Ça fait c'est un acquis. C'est les activités, c'est la dernière activité à l'université au nom du club scientifique Thafat Njar Djar de l'université de Bouira. On a commémoré le 20 avril 80 et le 20 avril 2001 avec une série de conférences, différentes tendances, etc. La lutte et le combat,
très bien. Donc, ça veut dire une partie de la démocratisation, c'est d'arracher des espaces déjà pour les étudiants. Donc, monsieur Abdel Abderzak, en tant qu'enseignant universitaire, ça veut dire quand on parle démocratie, c'est la gestion des affaires de l'université. Donc, comment on peut, ça veut dire imaginer cette démocratisation avec, en commençant tout d'abord par les responsables à tous les niveaux et l'implication des enseignants et des étudiants dans la gestion des affaires de l'université.
Mais ce que je disais tout à l'heure, justement, la question de la démocratisation passe par la remise en cause d'un état de fait qui est inquiétant, qui s'est incrusté depuis quelques années plus fortement qu'avant, c'est l'autoritarisme de l'administration. C'est-à-dire, il y a une gestion autoritaire de l'administration. Moi, je dis, il y a un pouvoir absolutiste de l'administration universitaire où le recteur et son staff gèrent l'université et prennent des décisions sans être à l'écoute ni des étudiants ni des enseignants. Et souvent, les décisions sont contestées parce qu'elles n'impliquent pas les principaux acteurs de l'université. Donc, de ce point de vue-là, il y a un changement majeur à faire. Une des idées, des suggestions ou des propositions qui ont été portées par le mouvement enseignant à un moment donné, c'est de dire il faut qu'on élise les présidents d'université par le collège des enseignants. Il faut qu'on élise.
À base d'un programme d'action.
Oui, bien sûr, sur la base d'idées. Quelle est l'université que nous voulons? Comment on la pense? Est-ce que c'est un espace de fabrication de diplômes? Est-ce que c'est un espace scientifique de recherche, d'accumulation de savoir, mais aussi de savoir critique? Est-ce que c'est un espace où il y a un mouvement dynamique, où tout le monde est impliqué, qui puisse réveiller non pas les consciences seulement, mais réveiller l'intellect des étudiants et des enseignants? Donc ça, c'est un enjeu premier qui me paraît important. Le deuxième aspect, c'est la question démocratique est de plus en plus urgente parce qu'aujourd'hui, la gestion de l'université dans son volet sécurité se fait par des sociétés de sécurité privées, de gardiennage, j'allais dire, mais qui ont l'exemple de Constantine, je crois, l'exemple à Alger, qui ont multiplié des actes provocateurs envers les étudiants, envers les enseignants, et qui s'impliquent, y compris quand il y a des mouvements de protestation, de grève des enseignants, alors que c'est pas leur rôle, et qui sont des agents qui sont pas formés, qui sont pas des fonctionnaires de l'université, mais qui sont des sous-traitants. Où sont les franchises universitaires? comment être interlocuteur avec ces gens-là, avec ces sociétés qui gèrent la sécurité, comment l'étudiant peut s'exprimer, peut bouger, quel est l'espace de sa mobilité, c'est des questions importantes. Et il est aujourd'hui impératif de libérer, j'allais dire, l'espace universitaire de ce type de relais ou d'agents, etc. Donc ça, ça me paraît important. Moi, je considère que la démocratisation, y compris dans le contexte politique d'impasse ou de crise dans lequel on est aujourd'hui au niveau national, il est important que l'université se démocratise pour pouvoir être un peu plus présente dans le champ du débat national sur les questions de société comme sur les questions d'université.
Très bien, donc même ça veut dire la démocratisation de l'université, donc ça permet aussi d'éviter des affaires de corruption. Aujourd'hui on entend de la gestion opaque des œuvres universitaires, oui, il n'y a pas de transparence, ce qui a même engendré des mouvements dans des universités, en l'occurrence le dernier mouvement qu'a connu Béjaïa il y a 3 ans, donc là où ils ont dénoncé des détournements d'argent. Donc aujourd'hui on trouve que les étudiants n'ont pas accès, ils n'ont pas le contrôle et dans la gestion des affaires de l'université, même de la cité universitaire.
Oui, ça veut dire aujourd'hui l'administration il gère par la corruption, ça veut dire, mais il a intérêt de faire cette corruption. Premièrement, déjà, si à l'intérieur des administrations on trouve des postes sont occupés par ceux qui ont le seul critère, ça veut dire qu'ils prennent dans le recrutement à l'administration au sein de l'université, c'est pas la compétence, mais il faut que ce sera ça veut dire de leur équipe, de leur clan. En plus, ce sera un corrompu. Premièrement, d'abord, ils ont bénéficiaire de cette corruption, ça veut dire la plupart des responsables, ils prennent de corruption et encore, et il utilise les étudiants pour casser les mouvements démocratiques autonomes à l'intérieur de l'université. Donc, sans la démocratisation de l'université, l'université, il va pas aller loin. La démocratisation, il va pousser l'université pour jouer le rôle d'origine de l'université.
Ok, monsieur Kader Saint, comment vous voyez la démocratisation?
Non, moi je la vois pas. Je crois pas à la démocratisation de l'université en dehors d'une avancée significative de la démocratisation de la société algérienne. Je pense que ce serait
une l'université algérienne et l'image de la société.
C'est l'image. Il y a pas de territoire plus libéré que d'autres. Ça peut pas durer longtemps. Ça peut arriver, mais ça peut pas durer longtemps. La preuve en est, c'est que 2011, il y a eu ce mouvement important, enfin, qui est, j'étais un peu surpris que ce soit comparé à 2 autres grands moments de l'histoire du mouvement étudiant, mais la Lénèche, on peut l'accepter. Que ça soit retombé rapidement, c'était un peu le grief et le regret de notre ami syndicaliste étudiant à Abdjaya. C'est parce que le reste de la société, il y a eu des velléités, il y a eu dans le cadre d'un contexte régional, le printemps arabe, oui, quand même. Oui, il y a eu le mouvement de la CNLDT à Alger avec les rassemblements de la presse 1er mai. Ça a bougé. Il y a eu les émeutes de début janvier 2011 avec 4 morts quand même. Et tout ça est retombé. Donc on a réglé le problème de la passerelle. On a enlevé la principale revendication qui pouvait fédérer
l'ensemble.
Et après, sur des revendications un peu plus avant-gardistes, comme la démocratisation, les gens ne restent pas mobilisés longtemps. Ne reste pas mobilisé longtemps parce que c'est moins concret, etc. Donc moi, je pense à un mouvement inverse. C'est-à-dire, la question qui se pose, c'est quelle est la part que le mouvement étudiant va prendre dans la prochaine ouverture démocratique en Algérie, parce qu'il y en aura une. Heureusement.
Oui,
quelle est la part? Est-ce qu'il va jouer une part prépondérante comme en 80, désolé de rappeler 80, ou est-ce qu'il va jouer un rôle un peu moins important parce que il n'aura pas surpassé toutes les difficultés qu'a bien dépeint Abdelazak, c'est-à-dire la mise sous clocher, la dépolitisation, l'autoritarisme de l'administration, l'atomisation des initiatives, etc., etc. C'est un peu ça. Ça peut changer très vite, hein. Ça peut changer très vite. Ça dépend des, encore une fois, il y a une sorte de déterminisme des contextes historiques. Il y a 2 facteurs qui transcende un mouvement étudiant et une université. Il y a le facteur qui est social et qui est lié un peu au syndicalisme étudiant, c'est quand même l'employabilité des étudiants à la sortie de l'université, 6 ans de grosses inquiétudes de ce côté-là, ça bouge. Aujourd'hui, les étudiants français ont mobilisé et étaient en première ligne dans les mobilisations contre la loi El Khomri. Et à la place République, ils étaient aussi parce que ils considèrent que c'est une loi qui prépare un avenir où eux n'auront pas les mêmes avantages et les mêmes garanties que leurs aînés en termes d'emploi. En Chine, différemment, à Hong Kong, les étudiants ont fait le plus grand mouvement de ces 10 dernières années, le plus grand mouvement d'étudiants, le mouvement jaune. Ils étaient par centaines de milliers d'euros parce que ils se sentaient agressés par la Chine continentale sur l'accord de 97, l'accord de rétrocession qui préservait des libertés démocratiques à Hong Kong. Hong Kong fonctionne comme un autre État. Et ils considéraient que la Chine du PC communiste était en train de leur enlever, notamment à l'université. Et donc, c'est devenu un mouvement citoyen qui a débordé l'université, etc. Ce sont les deux déclencheurs. Ça peut l'avenir, donc on est dans le corporatisme, entre guillemets, étudiant. Et puis, l'élément liberté démocratique au sens où il implique toute la société. Alors, chez nous, en 2000, on s'est un peu venu par l'employabilité avec cette histoire de passerelle. La prochaine fois, ça sera, à mon avis, plus des questions démocratiques. On ne sait pas comment ça surviendra, mais ça se fera en même temps que l'avancée des autres secteurs de la société algérienne. Voilà.
Justement, il y a un point très important. Vous avez abordé d'autres secteurs. Donc, on constate qu'il n'y a pas une liaison, une jonction avec de différents mouvements. L'université, elle est là, elle fait son, elle est au mouvement, il n'y a pas de solidarité. Les enseignants contractuels, ils sont au mouvement, malgré les étudiants, ils sont concernés et il n'y a pas l'implication, la solidarité des travailleurs dans d'autres sociétés. Donc, chacun dans son coin. Est-ce qu'il n'y a pas l'urgence aujourd'hui à ce que, par l'université, d'autres, ça veut dire?
Ce que tu décris, c'est le propre des périodes de reflux. C'est exactement le problème. Dans les périodes d'avancée, tout s'interconnecte.
Il y a une synchronisation.
Tout s'interconnecte spontanément. Dans les périodes de reflux, chacun défaut ses revendications dans son coin. Voilà. On est dans une période de relatif reflux et qui fait que ça se passera encore quelques temps comme ça. Mais il ne faut pas le déplorer parce que les luttes parcellaires, les luttes sectorielles accumulent des expériences. Il y a des leaders qui peuvent émerger localement, qui vont savoir mener une grève, l'arrêter, et créer une négociation avec une autorité rectorale, etc. Et l'étape suivante, ils sauront aussi aller créer une coordination avec l'université d'à côté ou le comité syndical d'à côté, etc. C'est bien que si ça s'interconnecte, c'est mieux. Si ça ne le fait pas, il faut essayer de préserver ce qu'on a appris pendant une lutte.
On peut rajouter, je partage totalement, ce qu'il faut, c'est que par rapport à la perspective fatale d'une ouverture démocratique, d'une bifurcation démocratique qu'on espère la plus longue possible, c'est que il y a une accumulation d'expériences qu'il faut faire, qu'il faut avoir dans les différents secteurs du pays. Et on parle du 19 mai, donc du mouvement étudiant. Il y a une accumulation d'expériences. On a Bougie qui ont bougé, donc qui ont une expérience. Maintenant, Bura, il y aura peut-être d'autres universités. Une accumulation de luttes, d'expériences, des formulations de revendications, une génération de militants qui va apparaître et qui vont, à un moment donné, être capable de porter une dynamique qui va au-delà du corporatisme étudiant universitaire. Et c'est une espérance, à mon avis, qui est raisonnable et réaliste. Voilà.
Ok, justement, ça veut dire, pour propager, ce qui s'est passé, par exemple, à Bouira, derrière moi, donc, c'est bien qu'il y ait des contacts parmi si on parle de défis que faire aujourd'hui, donc, il y a une expérience à Bouira. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité ou l'initiative de contacter d'autres universités pour que ces revendications soient des revendications nationales? Ça veut dire, elle ne sera pas uniquement des revendications d'une seule université, d'une région ou d'une seule université. Alors que la situation que veut l'université de Bouira est la même de toutes les universités algériennes.
Nous, à l'université de Bouira, c'est notre objectif. Même le mouvement les universités, dans les étudiants, c'est Bijaya, c'est Tizi Ouzou, c'est Boumerdès, même c'est Alger. Nous sommes la solidaire avec vous. Soutenir nous chacun des problèmes chaque université, soit des Bjayan, des Bouiran, des Gismis, des Tizi Ouzou, des Boumerdès. Mais le cas à Bouira, c'est un peu différent parce que la culture des comités autonomes ou des structures horizontales à Tizi Ouzou, à Bjayan, ça fait longtemps et lente. mais des Bouérans, c'est la culture agricole des comités autonomes, c'est une culture jdida, nouvelle, à cause des organisations satellitaires, malheureusement, qui sont pas crédibles et bien donc la transparence, c'est des opportunistes. Les étudiants au sens propre du terme, c'est malheureux, c'est à cause de Bunchtagitman et d'un qui a connu de l'université de Bouéra, à qui on a revendiqué les Darwana, nous connaissons maintenant, mais les représentants des étudiants, les structures horizontales, لكن c'est la responsabilité de la récupération, la tasse le choual. C'est les négociations, les étudiants.
C'est un enjeu extrêmement important. L'organisation, l'auto-organisation dans l'espace universitaire pour les étudiants, c'est le comité horizontal qui est élu pour une année.
Oui.
C'est ça. Après, il peut y avoir des organisations syndicales qui vont essayer d'être présentes dans ce comité, d'avoir des élus dans ce comité, de l'animer à côté d'autres, cohabiter avec d'autres, etc., que ce soit en résidentiel ou dans le campus. Mais c'est le modèle d'organisation qui permet d'animer la vie étudiante. Il ne faut jamais oublier que l'enjeu du contrôle d'un comité horizontal, d'un comité autonome, peut devenir stratégique dans un certain contexte, dans certains contextes historiques. Kamel Amzel a été assassiné au moment où il y a eu une bataille pour renouveler le comité de cité de Ben Aknan. Il a été assassiné pour empêcher l'affichage qu'il était en train de mener avec d'autres camarades syndicalistes étudiants. Et l'enjeu, c'était d'avoir un comité élu qui soit le vis-à-vis du directeur de la cité de Ben Aknan. Et qui anime la vie et l'organisation, les revendications des étudiants autour de la résidence de Ben Aknan.
Démocratiquement parlant.
Donc, je pense qu'il ne faut pas opposer les uns aux autres. C'est-à-dire que chaque organisation politique peut avoir son syndicat. Mais la vie, l'organisation, c'est de l'auto-organisation sur un comité, sur une année élu. Il peut y avoir des renforts durant l'année, etc. Mais c'est ça la passerelle de l'organisation. Et c'est ça qui aussi correspond à la particularité de l'université.
Voilà, la mobilité
des étudiants. C'est-à-dire les étudiants, c'est pas comme aller au syndicalisme ouvrier où on a quelqu'un qui fait carrière pendant 25 ans, il peut être à la tête d'un syndicat pendant 25 ans. Donc ça tourne. Il faut construire des comités autonomes. C'est le modèle d'organisation.
Ok, donc c'est le...
Je voulais ajouter... une idée sur l'aspect connexion des différentes luttes, etc. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a les médias, il y a les réseaux sociaux qui sont un facteur impressionnant d'échange d'informations, de liens, de comparaison des expériences, de mémorisation des expériences quand il y a des luttes étudiantes, etc. Moi, j'ai suivi Bougie, j'ai suivi Buira à travers les réseaux sociaux, donc à travers Internet. C'est très intéressant et ça permet d'espérer, parce que l'important, l'organisation commence par la circulation de l'information. Quand l'information circule, quand les gens sont informés, les gens mémorisent des expériences, ça peut être le point de départ à quelque chose. Voilà.
Complètement.
Ok, donc on revient à la fameuse question, que faire donc, face à cette situation, surtout les enjeux, surtout le contexte national et régional. Donc, vu la situation de pays, comment on peut, quelles sont les mesures urgentes aujourd'hui pour que l'étudiant s'implique, qu'il devient un acteur politique, pour que l'université devienne un espace de débat, un espace de réflexion et de proposition. Voilà, donc, la question.
Oui, donc, aujourd'hui, l'édifice de l'université algérienne doit être l'avant-garde de toutes les luttes sociales et politiques de la société algérienne. Autant qu'étudiant, conscient du rôle qu'on doit jouer dans le processus de la construction nationale et l'avènement d'un état du droit, nous avons un devoir moral et impérieux de réinventer l'esprit du 19 mai 56 pour rendre le deuxième objectif de la révolution algérienne, à savoir la construction d'une république démocratique et sociale, et cela, bien sûr, par la continuité du combat pacifique et de résister encore face au mépris de la tutelle et du pouvoir en général.
Ok, merci.
Il faut que les étudiants de l'université algérienne en général deviennent conscients, deviennent responsables, de représenter l'immensen dans des comités autonomes, soit au niveau des campus, des départements, au niveau des cités universitaires. Parce que l'union fait la force et la force fait la loi. Les objectifs soient à court terme ou au moyen terme, à long terme.
Oui, pour voir l'université différemment dans les années qui viennent, y compris en termes de démocratisation, pour qu'elle soit impliquée dans les défis, les enjeux immédiats qui se pointent à l'horizon. C'est d'abord, premier point, on l'oublie souvent, c'est que la réglementation à l'université a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'il y a un dispositif réglementaire qui est très fermé, qui empêche toutes les initiatives, qui permet à l'administration de faire la pluie et le beau temps. Il faut remettre en cause toute la réglementation qui organise les structures pédagogiques, qui organise les conseils scientifiques, qui organise tout ce qui est rapport des étudiants et des enseignants à la pédagogie et à l'administration. Ça me paraît important, c'est-à-dire démocratiser le fonctionnement réglementaire de l'université. Le deuxième aspect, c'est, il en a parlé, l'aspect employabilité, c'est tout à l'heure, c'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, l'enjeu premier des étudiants qui semble se manifester chaque année, c'est comment avoir un diplôme qui leur permet d'être employé. Bon, et c'est pour ça que cette logique de fabrique des diplômes est dévalorisante, parce que le marché du travail n'est pas un marché de... Il n'y a pas de bassin d'emploi, il n'y a pas de perspective d'emploi énorme, etc. Les étudiants font tout pour continuer leurs études. Ils exigent l'accès démocratique, entre guillemets, au master. Aujourd'hui, ils sont en train de passer au doctorat, et tout le monde aura le doctorat, et après, comment on résout ? On aura tous les diplômes. On aura, j'allais dire, dans le CV tous les diplômes, mais on n'aura pas forcément la connaissance ni cette aptitude à affronter les exigences du marché du travail. Et c'est là où je dis, y compris les marchés du travail aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, à l'échelle mondiale, on demande la polyvalence des gens. Mais je la vois, moi, en positif, je la pose en positif. C'est-à-dire, il faut que les étudiants apprennent à sortir de leur cursus fermé pour s'intéresser à d'autres questions, à d'autres connaissances, à d'autres savoirs, etc., pour développer leur capacité, non seulement en termes de compétitivité, mais en termes de décrypter la réalité, décrypter ce qui se passe dans la société, décrypter les enjeux auxquels ils sont confrontés. Et c'est une façon un peu de s'armer pour mieux s'intégrer, s'impliquer et s'engager dans les enjeux qui viennent. Voilà.
Ok.
Oui, là, il faut bien se rendre compte de quoi nous parlons, hein. Nous parlons, ça aussi c'est une différence par rapport à l'université des années 70, début des années 80, nous parlons d'une institution qui est en situation d'échec. Est-ce qu'il y a une université algérienne dans les 1500 premiers rangs du classement Shanghai? Il n'y en a pas. Donc on a un gros problème de performance, de la production du savoir, de la transmission du savoir dans l'espace institutionnel universitaire. On peut pas évacuer cela comme ça d'un revers de la main. C'est-à-dire que quand on traite du secteur, quand on traite du rôle de l'étudiant, le premier rôle de l'étudiant, ce n'est pas à la limite de démocratiser son université ou d'être un citoyen d'avant-garde dans le mouvement social.
C'est d'étudier.
C'est de bien acquérir le savoir que lui propose l'institution et pouvoir ensuite le bonifier, le développer dans sa vie professionnelle. Et de ce point de vue-là. Il y a une crise qui s'est aggravée au fil des années, à laquelle la réponse qui va être apportée, c'est une réponse classique. Il y aura des universités privées. Il va y avoir des universités privées. On a eu beaucoup peur de l'école privée. Bon, finalement, c'est une école qui vient en appoint, qui correspond à une certaine demande. qui ne chamboule pas complètement le, pas vraiment, compte tenu de la taille démographique aujourd'hui. Mais il y a des élites algériennes d'argent ou des élites de savoir qui vont essayer de faire en sorte que leurs enfants étudient plutôt que de payer des études à l'étranger. C'est très difficile, c'est très cher et ça va le devenir de plus en plus. Le dinar étant dévalué, ça va le devenir de plus en plus. Essayer de créer des espaces d'élite, des espaces d'excellence en Algérie. Donc ça va poser un nouveau défi, puisqu'on en parlait, un nouveau défi, mais à mon avis, un défi à la marge. Donc, une des manières dont les étudiants et le mouvement étudiant pourraient poser le problème de l'avenir, ce serait de faire en sorte d'avoir des universités performantes. Je sais que ça, voilà. C'est pas comme ça que ça se pose aujourd'hui, mais au bout d'un moment, on peut se poser la question, pourquoi, de la même façon qu'un citoyen qui consomme des services médicaux va à l'hôpital et il exige un service de qualité à l'hôpital, les étudiants devraient se mettre dans cette configuration. Nous, à Sciences Po, en 79-80, on avait professeur Benagenou, professeur Thomas, je les cite parce qu'ils sont devenus ministres plus tard, etc. Bon, on avait plein de professeurs de renom à l'international, etc. On voulait qu'ils restent, on se battait pour qu'ils restent à l'université, qu'ils aient le maximum d'horaires, etc. Et donc, ce combat de la qualité, c'est un combat important aussi pour le monde étudiant parce que ça légitime le statut de l'apprenant qui demain devient l'élite de la société.
De ce point de vue, dernière remarque, la façon dont on a pensé les pôles d'excellence à l'université algérienne avec les écoles supérieures, je le dis fortement et sûr de ce que je dis, c'est-à-dire les écoles supérieures, nationales supérieures, sont gérées d'abord de façon quasi militarisée, où la majorité des enseignants, c'est des vacataires. Il n'y a pas... on attend d'eux une capacité, une aptitude, etc. Et le niveau de connaissance, la façon dont c'est géré, encadré, ne permet aucunement d'espérer que des pôles d'excellence puissent émerger à ce niveau-là. Voilà. Et c'est dommage.
Ok, donc voilà, donc le combat aujourd'hui des étudiants, je pense effectivement il faut l'enregistrer dans double registre. Le premier, c'est tout d'abord avoir une formation à l'université performante, et cela on peut pas le dissocier aussi avec la lutte pour démocratique et sociale à l'intérieur de l'université et aussi qui sort au-delà de l'université. Donc c'est un double combat et qui concerne aussi d'autres secteurs dans la société. Donc c'est une question très sensible qui mérite des séminaires, qui mérite des colloques, ça veut dire la question de l'université et du mouvement des étudiants. J'espère qu'on a abordé brièvement cette question et on est arrivé à la fin de cette émission. On vous donne un rendez-vous prochainement avec un autre sujet d'actualité. Merci d'avoir accepté notre invitation et à la prochaine fois.
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.